On pense qu'on le connaît. Et en travaillant dessus pour les ados, je me suis dit, mais il y a plein de choses dans ce texte, peut-être auxquelles on ne pense pas. Donc, ça va être le test aujourd'hui. Vous allez voir si vous apprenez des choses nouvelles ou pas. Mais en tout cas, je ne peux pas résister, vous me connaissez. J'aime bien qu'on connaisse le contexte de ce qu'on lit dans la Bible. Alors, Luc, qui était Luc ? Non, ce n'était pas un disciple de Jésus, ce n'était pas un des douze. Luc était un homme médecin d'origine païenne et il a souvent accompagné l'apôtre Paul dans ses nombreux voyages. Pourquoi Luc a donc écrit un évangile puisqu'il n'a pas vécu avec Jésus comme Matthieu ou Jean, hein ? Eh bien, parce que c'était un ami d'origine païenne aussi, mais qui était chrétien, qui s'appelle Théophile, qui lui avait commandé un livre sur la vie de Jésus. Et donc, il le fait, et il le fait différemment de Matthieu, Marc ou Jean. C'est ça qui est merveilleux avec les évangiles, il y en a quatre. Et vous savez, je dis toujours, la preuve d'authenticité, c'est qu'ils ne disent pas rigoureusement la même chose. Bon, quand mes élèves me rendaient une copie, et que les deux, assis à côté d'eux, rendaient la même copie, je me disais « Oh là là !» Hein ? Et c'est vrai avec les évangiles. Chacun a vu les choses à sa manière, et chacun va les expliquer à sa manière. Et ça, c'est important. Et j'aime beaucoup Luc, personnellement, parce qu'il a une formation scientifique, même si à l'époque, ce n'était pas aussi avancé que maintenant. Et il va chercher à fournir un enseignement d'une vérité incontestable, basée sur une enquête sérieuse auprès de témoins oculaires. Vous pouvez lire ça dans les premiers versets de l'évangile de Luc. C'est intéressant. Parce qu'il fait un travail de vérité, un travail scientifique. Il va voir des témoins oculaires pour raconter l'histoire de Jésus. Alors quand ? C'est entre 57 et 59, on pense. Donc, vous voyez, ce n'est pas très, très longtemps après la mort et la résurrection de Jésus, alors que son ami, l'apôtre Paul, était prisonnier à Césarée. Alors, ça peut être un tout petit peu après, mais vous savez, on n'a pas des dates très précises, mais ça donne quand même une idée. De toute façon, avant que Jérusalem soit rasée par les Romains dans l'an 70. Donc, on est sûr de cette date. Alors, il y a une particularité, justement, dans l'évangile de Luc, mis à part le fait de faire une enquête soigneuse, c'est qu'il présente Jésus pas seulement comme le Messie du peuple juif. Parce que Matthieu, il est très, très, très juif, voilà, et il montre comme le Messie, l'envoyé, amène le royaume de Dieu, etc. Lui, il le présente bien sûr comme le Messie des Juifs, mais aussi comme le sauveur de tous les hommes. Tous les hommes. Et ça se voit dès le chapitre 2, avec le chant de Siméon à la présentation de Jésus, où Jésus est qualifié de « lumière pour éclairer les nations ». Et l'anglais dit « les païens ». Lumière aussi pour les païens, pour les non-juifs. Quand on dit païens à l'époque, ce sont les non-juifs dans la Bible. Jusqu'à la fin, lors des dernières instructions à ses disciples, chapitre 24, verset 47, il va dire que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, bien sûr, les Juifs ne sont pas exclus, on commence par eux, mais ça doit aller à toutes les nations. Ce qui va expliquer aussi comment le christianisme s'est répandu à une vitesse folle, sans imprimerie, sans moyens de transport modernes. C'est extraordinaire. C'est donc un évangile, évangile ça veut dire bonne nouvelle, pour tous les peuples, juifs, grecs, romains, y compris les Samaritains, qui étaient mal vus à l'époque, sans considération de race ou de condition sociale. Et ça, c'est précieux, parce que souvent, les religions officielles ont tenu compte des races, des conditions sociales, des pays de provenance, etc. Et l'Évangile est clairement pour tous, quelles que soient leurs conditions sociales ou leur race. Alors, c'est formidable parce qu'il va prouver ça dans toutes ses histoires, Luc. Il va raconter les expériences d'hommes, de femmes aussi, veuves, prostituées aussi, comme de gens qui ont une position très élevée dans la société romaine aussi. Ça s'adresse à des hommes libres, mais aussi à des esclaves, il y en avait à l'époque, hein, des gens rejetés par les sociétés, par la société. Les bergers, par exemple. Les plus pauvres, les plus faibles. Et même, ça se termine avec le brigand sur la croix, qui reconnaît lui-même qu'il est coupable. Le pécheur méprisé et une catégorie épouvantable qu'on va voir aujourd'hui, le collecteur d'impôts. On va voir pourquoi. Le verset clé de l'évangile de Luc se trouve dans notre texte d'aujourd'hui, chapitre 19, au verset 10. Car le Fils de l'homme, c'est comme ça qu'il l'appelait Jésus, parce qu'il était à la fois Fils de Dieu, Fils de l'homme, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc peu importe qui c'est, peu importe où il en est dans sa vie. Et ça, c'est formidable. Ce n'est pas réservé à un peuple élu, ce n'est pas réservé à une élite. C'est pourquoi on trouve dans l'évangile de Luc des événements ou des histoires qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles. C'est l'intérêt d'en avoir quatre. Parce que lui va raconter des choses qui ne figurent pas chez les autres, qui n'ont peut-être pas choqué les autres. Peut-être la mémoire, peut-être simplement ils n'avaient pas envie de le raconter, on ne sait pas. Et ça renforce ce fait que Jésus est le sauveur de toutes sortes de gens. Alors, au chapitre 7, il y a le récit de la femme adultère que vous connaissez. Il n'est pas dans les autres évangiles. Et au chapitre 15, alors il y en a trois. La brebis perdue, c'est une parabole. La pièce perdue, la drachme perdue, une autre parabole. Et le fils prodigue, troisième parabole, le fils qui est perdu et qui revient. Au chapitre 18, il y a la prière du publicain, collecteur d'impôts. Au chapitre 19, notre histoire d'aujourd'hui, l'histoire de Zachée. Et au chapitre 23, l'histoire du bon samaritain, que tout le monde connaît, même les non-chrétiens. Il y a même un magasin à Paris qui s'appelle la Samaritaine, c'est marrant. Et donc, voilà, il va parler de personnages qui n'ont pas forcément marqué les autres gens. Luc insiste aussi beaucoup sur la vie de prière de Jésus. Au chapitre 11, par exemple, il va parler de l'ami qui va insister, il le pose comme un modèle. Il insiste auprès de son voisin pour qu'il lui passe du pain parce qu'il vient d'avoir des invités à l'improviste, des voyageurs qui s'arrêtent chez lui. Et Jésus dit, voilà comment il faut faire, il faut insister. La veuve aussi, avec le juge inique, vous vous souvenez cette veuve, elle demande justice et le juge, il en a ras-le-bol. Et à la fin, il dit, bon, moi, je vais lui faire justice parce qu'elle me casse les pieds, ni plus ni moins. Hein, voilà. Très important. Parce que ça donne une idée de la prière persévérante. Non pas pour casser les pieds, mais pour vraiment persévérer dans ce qu'on demande à Dieu. Ne pas se dire, voilà, c'est une machine à sous, à Dieu, hein, je lui mets une pièce et pouf, il doit sortir ce que je veux. Ce n'est pas comme ça. Ça demande une implication, ça demande une implication dans la prière. Et parfois, on le sait tous, ça prend du temps. Ça, on a horreur de ça, surtout dans notre civilisation où les choses doivent aller vite. Hein, surtout maintenant qu'on a les micro-ondes, hein, faut plus attendre quoi que ce soit. Et avec la prière, il n'y a pas de micro-ondes, hein, il faut persévérer. Alors on n'apprécie pas toujours. Hein. La prière du publicain aussi, qui parle de l'attitude à avoir devant Dieu. Ça, ce sont des histoires qui ne figurent pas dans les autres évangiles, hein, c'est marrant. Alors, dans notre histoire d'aujourd'hui, on va peut-être commencer par la lire. Elle est très belle. Alors, j'ai choisi la version classique de Second, mais parce que je pense que tout le monde la connaît un petit peu par cœur. Il y a certains mots importants. Voilà, donc Luc 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Alors, chaque mot est précis là. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Or, sycomore, en fait, ce qu'on appelait sycomore à l'époque, c'est une sorte de figuier qui était très répandu en Égypte aussi. Voilà. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Oh, il est allé loger chez un homme pécheur !» Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple, quatre fois plus. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » c'est-à-dire il appartient au peuple d'Israël, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous voyez, ça c'est central dans l'évangile de Luc. Alors, où est Jésus? On va prendre la petite méthode hein, qu'on utilise d'habitude, où, qui, que, quoi, etc. Quand on étudie un texte de la Bible, c'est précieux. Où est Jésus? Ben, il entre dans la ville de Jéricho. Alors, elle se situe à peu près à 27 km au nord de Jérusalem, donc il y a encore du trajet pour aller à Jérusalem. C'est une ville extrêmement riche. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il se trouve que c'est un carrefour de routes commerciales et les caravanes de marchands, en général, traversaient Jéricho pour se rendre en Égypte. Donc voilà, ils venaient de l'Est et ils allaient à l'Ouest. Et donc c'est une ville prospère parce que bien, ils n'étaient pas fous. Nous, on a des péages sur les autoroutes. Et eux, ils avaient des péages pour les marchands. C'était la douane. Et croyez-moi, comme il y avait énormément de marchands qui transitaient par là, la ville se faisait beaucoup d'argent. Et la ville, les douaniers, etc. Hein? Alors, quand est-ce que se situe cette histoire dans la vie de Jésus? Ça, c'est important, parce que Jésus, juste avant, vient de dire quelque chose de très important à ses disciples, le verset 31 du chapitre 18. Quelque chose de très, très important. Juste avant d'aller à Jéricho. Jésus prit les 12, donc ses 12 disciples, auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Théoriquement, ils auraient dû savoir ce qu'il y avait dans les prophéties. Ça disait entre autres qu'il serait tué, qu'il donnerait sa vie, etc. Verset 32. « Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir et le troisième jour, il ressuscitera. » Vous allez voir comme les disciples, comme ils étaient ouvert à ce que Jésus disait, mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Ben, ils ne pouvaient pas accepter ça. Ça faisait 3 ans qu'ils marchaient avec Jésus dans les villes, les villages, qu'ils parlaient du royaume de Dieu, qu'ils annonçaient l'amour de Dieu, qu'ils guérissaient les malades, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient. Non, non. Hein, quelque part, il y avait un déni, un refus que Jésus passe par là. Du coup, il voulait pas comprendre. Et vous voyez, quand on veut pas comprendre, eh ben, on comprend pas. Et ils ont rien compris. Rendez-vous compte, c'est les disciples de Jésus qui le voyaient prier, qui probablement devaient prier avec lui, etc. Rien. Blackout complet. C'est important parce que, en fait, chaque fois qu'on dit que Jésus s'approche de Jérusalem, ça veut dire qu'il s'approche du moment où il va devoir donner sa vie pour nous. C'est important d'avoir ça en tête, parce qu'arrivé à Jéricho, il guérit, première chose, il guérit un mendiant aveugle, encore une fois, un mendiant aveugle, à l'entrée de la ville, déjà quand il arrive. Ça montre l'attention de Jésus pour le plus rejeté, le plus pauvre. Alors c'est curieux d'ailleurs, parce que ce mendiant, il avait crié, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et puis criait, et les disciples, la foule étaient là, « Mais tais-toi !» Ah ouais, tais-toi. Mais Jésus, lui, il l'a appelé. Il a dit, amenez-le-moi. Et il l'a guéri. Alors, avec qui est Jésus le jour de cette histoire de Zachée? Eh bien, alors, qu'est-ce qui est autour de Jésus? Ça, il faut bien se le représenter. Il y a ses disciples, bien sûr. On vient de le voir. La foule aussi. Puisque au chapitre 14, le verset 25, dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Donc, j'invente rien. Les publicains et les gens de mauvaise vie, au chapitre 15, ils s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Donc, il y avait aussi les publicains et les gens de mauvaise vie. Les gens de mauvaise vie, oh là là, on n'avait pas touché. Hein. Et ça ne gênait pas Jésus, ils étaient autour de lui. Et les publicains, bah, c'était les percepteurs d'impôts, on va en parler tout à l'heure. Et au chapitre 15, verset 2, on s'aperçoit qu'il y avait aussi d'autres gens autour de Jésus. Il n'y avait pas que cela. Et au chapitre 15, verset 2, disent « Les pharisiens et les scribes, les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus, puis les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Il y avait aussi les pharisiens et les scribes. Alors, je pense qu'avant de commencer notre histoire, c'est important de comprendre ce qui se passait à l'époque. Parce que alors là, nous, on nage, là, hein, c'était il y a 2000 ans. Les pharisiens, il n'y en a plus. Des scribes, peut-être encore dans certains pays. Les écrivains publics, mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc, à l'époque, il y avait trois groupes religieux importants. Il y avait, en Israël, hein, les Esséniens, j'en parle pas tout de suite, les Sadducéens, on n'en parlera pas maintenant non plus, parce que je ne pense pas qu'ils étaient là, les Pharisiens. Alors, les Pharisiens, ça veut dire séparés. Déjà, ça donne une idée, hein. On ne se mélange pas. Hein. C'est un mouvement qui est apparu, en fait, je suis désolée, mais l'histoire m'intéresse toujours. Ça montre aussi que la Bible ne raconte pas n'importe quoi. Ce que je donne comme explication, ça vient des historiens. Donc, c'est un mouvement qui apparaît plus de 100 ans avant Jésus-Christ. Et en fait, ils étaient en réaction par rapport à la tendance des Juifs de s'héléniser, c'est-à-dire d'adopter la culture grecque. Vous savez que les Grecs avaient conquis la Palestine. Et bah, petit à petit, on devenait comme les occupants. Petit à petit, on prenait leurs idées, leur morale, leurs valeurs, leur religion, nanana. Et donc, les pharisiens ont dit non, nous, on est le peuple de Dieu, on ne doit pas accepter tout ce paganisme, etc. Les dieux de l'Olympe et tout, vous avez tous fait ça en sixième. Oui, sixième. Donc, eux, ils étaient en réaction à ça. Et puis, ils ont commencé à avoir de plus en plus d'influence. Au départ, c'était des résistants qui étaient attachés à la loi de Moïse. C'est-à-dire, vous voyez, ça représente dans la Bible, ça représente quand même pas mal de choses. La première partie de la Bible, c'était la base de leur foi. Donc, c'était sérieux. C'était une élite dans la nation. C'était des gens avec beaucoup de courage. Il y en a beaucoup qui ont donné leur vie pour la vérité et de droiture. Mais voilà, 120 ans ont passé quand Jésus est là. Et en 120 ans, on change. Et ça, tous les mouvements religieux, ils n'y échappent pas. On va plutôt vers le bas que vers le haut. On voit en ce moment la religion chrétienne, qui, en tout cas en Europe, qui a du mal à survivre, et parce que les compromis sont de plus en plus nombreux. Et le niveau moral et spirituel des pharisiens, vraiment bien descendu. La religion devient seulement l'observation de la loi. Il faut pas, tu dois pas. Et puis on ajoute des lois supplémentaires à la loi de Moïse. Donc comme ça, comme si on n'avait pas assez, on en rajoute pour la vie quotidienne. Hein, il ne faut pas faire tant de kilomètres le jour du sabbat, il ne faut pas enlever les cheveux du peigne quand on se coiffe le jour du sabbat. Enfin, ça devient ridicule, mais bon, on ajoute. Jésus lui-même va dire dans Matthieu 15 qu'il n'approuvait pas tout ça. Ces lois faites par des hommes et qui avaient plus de sens, en fait. Donc, Jésus se retrouve en face de ces pharisiens qui furent des gens extraordinaires, mais qui sont devenus légalistes. Légaliste parce que pour eux, maintenant, l'extérieur devient plus important que le cœur. Il suffit de faire, tu dois pas, il faut pas, et puis voilà, t'es quitte. Et ça, c'est la tendance normale de l'humain. On ne peut pas trop critiquer les pharisiens. L'humain, si vous regardez les religions du monde, ils cherchent à atteindre Dieu en faisant des choses. Alors, je fais ci, je fais ça, je fais des sacrifices, je jeûne, je prie pour les chrétiens, c'est autre chose, etc. Toujours, moi, je fais pour obtenir de Dieu une grâce, etc. Et Jésus, c'est pas ça. Jésus, c'est moi, je donne ma vie pour vous rendre capable de marcher avec moi. C'est complètement un autre concept. Le concept de base de Jésus, c'est moi, je donne ma vie. Je viens vers vous. Je ne repousse personne. Je vous demande pas d'accomplir des choses extraordinaires. Simplement, on va le voir avec Zachée. Accepter que j'entre dans votre vie. Et ça, c'est formidable, c'est très particulier au christianisme, encore au XXIe siècle. Parmi eux, il y avait quand même des gens sincères, hein, on le voit dans l'histoire de Jésus, il y a eu Nicodème, il y a eu l'apôtre Paul, qui était un pharisien un peu enragé, hein, en plus. Mais qui était Zachée, notre Zachée de notre histoire, là? Alors d'abord, son nom, vous savez, j'aime bien regarder la signification des noms, parce qu'en Israël, on donnait des noms aux enfants, avec une sorte d'aspect prophétique, hein, de ce qui serait plus tard. Et Zachée, ça, on pense que c'est le diminutif de Zacharie qui dit « l'Éternel s'est souvenu ». Mais ça tombe bien, l'Éternel s'est souvenu de Zachée. Alors, il habite donc à Jéricho. La Bible dit qu'il est riche et chef des publicains. Ah, c'est quoi ça? Alors, je suis désolée, je ne résiste pas non plus à l'histoire. À l'époque, les Romains collectaient des impôts, donc ils occupaient la Palestine. Vous avez tous vu des films sur l'occupation allemande. Vous avez vu que, voilà, dans les années, début des années 40, les Allemands ont conquis la France et se sont installés en France. Évidemment, ils percevaient les impôts des Français, ils récupéraient tout ce qui avait un peu de valeur, y compris la nourriture d'ailleurs. Les Français, ils souffraient énormément, hein. Moi, mes parents et mes beaux-parents ont vécu cette période. Et mon père et mon beau-père ont été blessés à la guerre. Je veux dire, c'est des choses qui sont très présentes dans nos familles. Et les Romains, quand ils occupaient, ils n'étaient pas plus rigolos que les Allemands. Et ils étaient très exigeants. Et donc, les Romains, ils voulaient que les collecteurs d'impôts leur donnent l'impôt. Alors, ils s'étaient organisés. Alors, il y avait tout en haut ceux qui, les chefs des publicains, si vous voulez, mais au-dessus, ça s'appelait le magister, qui collectaient l'argent qui avait été ramassé, disons, réuni par les chefs des publicains dans le pays d'Israël. Et puis, les publicains avaient, en bas de l'échelle, des collaborateurs qui collectionnaient l'argent qui allait de porte en porte pour récupérer les impôts. Alors, jusque-là, bon. C'est un système comme un autre, hein, c'est l'administration. Ah, mais non, parce que les Romains, ils étaient malins. Pour être publicain, c'est-à-dire pour être collecteur d'impôts, il fallait payer sa charge. Payer, c'est comme si on achetait sa charge, comme sous Louis XIV, hein, les notaires achetaient une charge de notaire. Il suffisait d'avoir de l'argent. Seulement, bon, c'est bien joli, mais il fallait qu'ils soient payés. Les Romains ne les payaient pas. Non seulement ils achetaient leur boulot, mais en plus, ils n'avaient pas de salaire, donc c'était à eux, en prélevant l'impôt pour les Romains, de rajouter un petit supplément pour rembourser un peu leurs charges, et puis pour s'en mettre dans la poche. Et ils ne se gênaient pas, surtout à Jéricho, une ville riche avec plein de marchands. Donc ces gens, ils étaient détestés par le peuple juif. C'était des collaborateurs, si vous avez vu des films sur la guerre, vous savez ce que c'est. Ils travaillaient avec des païens en plus, attention! Donc ils étaient impurs. Donc, c'était exclu d'avoir un contact avec un percepteur. Bon, je vois bien que vous n'aimez peut-être pas trop votre percepteur, mais on n'en est pas là. Hein. Là, il y avait en plus un problème religieux. C'était des païens qui travaillaient pour l'occupant. Pas de contact, ils étaient impurs. Ils n'étaient pas autorisés au temple ni à la synagogue. S'ils voulaient rencontrer Dieu, on n'en voulait pas. Leurs offrandes étaient refusées au temple. Et puis, leur témoignage n'était même pas valable en justice. Jusqu'où ça va? Ah, oh, c'est un publicain qui l'a dit. Oubliez-le. Aïe, aïe, aïe. Évidemment, ils augmentaient les impôts, hein, pour se remplir les poches, donc ça n'aidait pas. Et ils sont classés parmi les pécheurs. Ils sont mentionnés en général au même rang que les prostituées. Sur le plan moral, c'est le bas de l'échelle. Donc, notre Zachée, vous avez compris, c'était un de ces gens-là. Au bas de l'échelle. Riche, oui, mais rejeté par la population. Alors, ne parlons pas des pharisiens. Oh. Zachée, la Bible nous dit, cherchait à voir qui était Jésus. Comment un homme rejeté, un homme impur, un homme qui collabore avec l'occupant, un homme qui est malhonnête, comment est-ce qu'il peut prétendre chercher Jésus? Oh, quelle horreur! C'était ça, hein, la réaction des gens. Alors, lui se posait la question, c'est qui ce Jésus? Il venait d'entendre, parce que le téléphone arabe, ça marchait vite, hein, il venait d'entendre que juste avant d'entrer dans la ville, il avait déjà guéri un aveugle. Ça tournait dans sa tête. Un mendiant, ce Jésus, vous m'avez bien dit, il a guéri un mendiant aveugle. Il l'a même appelé. Alors ça, alors, ce n'est pas les pharisiens qui feraient ça, hein. On ne touche pas à un mendiant. Il a entendu des témoignages de guérison. Il a entendu son refus de céder aux pharisiens. Son amour pour tous les gens, y compris les Samaritains qui habitaient au nord, là, puis qui étaient vraiment avec une théologie bien mélangée. Zachée était décidé à voir de ses yeux, et ça, c'est important. C'est ce que je dis souvent aux jeunes. C'est bien d'entendre parler de Jésus à l'église, dans la famille ou autre, mais ce qui est important, c'est vous de rencontrer Jésus. C'est d'avoir une expérience personnelle de qui est Jésus. Parce qu'entendre parler d'eux, c'est bien, hein, mais c'est mieux, hein, si vous avez je sais pas, un chanteur ou un acteur ou une actrice que vous aimez beaucoup, c'est quand même plus sympa de manger avec cette personne plutôt que de la voir sur Internet. Hein. Il y a une différence quand même. Et c'était ça. Je voulais voir Jésus, je veux voir de mes yeux qui est cet homme. Il est quand même étrange, il n'est pas comme les autres religieux. L'expérience personnelle est nécessaire. Alors il aurait pu dire, moi je me mets à appeler à la place de Zachée, il aurait pu dire, ah ben les religieux ils me rejettent, hein. Les pharisiens ils m'aiment pas, les gens m'aiment pas. C'est même pas la peine de chercher à voir un homme religieux comme Jésus. Ok, il fait des miracles, et alors ? Alors vous savez, on peut être tellement rejeté dans la vie que parfois on ne veut plus chercher Jésus. Et ça peut être le cas de quelqu'un ici. J'ai tellement été rejetée par la religion, par des religieux. Je pense à tous les gens qui sont allés dans des pensionnats, bon, c'est peut-être plus dans la génération d'avant, mais dans les pensionnats catholiques et qui après ne veulent plus rien entendre de Jésus. Dommage. Dommage parce que Jésus, il n'est pas comme ça. Alors c'est vrai que quand on a été tellement rejeté, on ne veut même pas lire, on ne veut même pas écouter la Bible. Et je peux comprendre ça. Mais Jésus le comprend aussi. Et il comprenait Zachée. Et alors moi, je vous dire, j'admire Zachée. J'admire Zachée parce qu'il veut voir Jésus. Et puis, ben, il a un problème. Il est petit et la foule est autour de Jésus. Il n'y a pas moyen de voir Jésus. Il n'y a pas moyen. Il est là, je vois rien. Ah. Jésus est tellement entouré de gens qui le suivent partout. Il est trop petit. Alors il aurait pu dire, tant pis. C'est comme ça que Dieu m'a fait, il m'a fait petit. Je rentre chez moi. Oui, il aurait pu dire ça. Moi, j'aurais peut-être été tentée de faire ça. Oh, je ne veux pas me battre, hein. je ne le vois pas, tant pis. Hein. Je le verrai un autre jour. Et puis, tous ces gens, aïe, 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 je vais entendre de ces réflexions, moi, le péager, moi, le publicain, le percepteur d'impôts, là. Oh, les moqueries, les insultes. Oh, allez, j'abandonne. Eh bien, moi, j'admire Zachée parce qu'il n'a pas abandonné. Quand on veut connaître Jésus, les gens qui n'abandonnent pas, ils ne sont jamais déçus. Alors, bien sûr, vous avez des gens comme Simone de Beauvoir qui avait simplement sorti sa montre, qui avait dit, voilà, si Dieu, tu existes, je te donne un quart d'heure pour te révéler à moi. Bah, si Dieu est Dieu, ça m'étonnerait qu'il... Hein, bon. Bon, voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais lui, Zachée, ce n'était pas ça. Si je veux voir. Je veux voir qui il est. Je veux voir comment il se comporte. Je veux voir ce qu'il fait. Je veux peut-être arriver à entendre. Donc, il n'abandonne pas. Il est en face d'un obstacle naturel, insurmontable. Mais il n'abandonne pas. Il est limité. Les autres lui bloquent la vue. Alors il a trouvé la solution. Il court devant. Alors là, moi je trouve que ça devait être rigolo. S'il y avait des gamins qui regardaient la scène, ils ont dit, oh, le petit Zachée qui galope devant la foule et Jésus, il est dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il fait à courir devant? Non, vraiment, Zachée, là, il perd la boule. Hein. Ça devait être drôle à voir. Vous imaginez aussi avec les toges, les robes de cette époque, voilà, un petit bonhomme qui court, et dans l'autre sens, il y a Jésus qui arrive, et lui, il court dans l'autre sens. Qu'est-ce qui fait notre Zachée? Mais moi, j'admire Zachée, parce qu'il n'abandonne pas. Et puis, il court devant, ça peut sembler idiot, mais il sait ce qu'il veut. Il veut trouver de la hauteur pour pouvoir voir. Il a trouvé la solution. Il va se donner les moyens de dépasser ses limites. Est-ce que nous, on se donne les moyens de dépasser nos limites? Ce qui nous bloque, ce qui nous gêne, ce qui va poser problème, ce qui nous empêche de connaître Jésus. Il ne se laisse pas arrêter par les difficultés, les obstacles, ses propres limites, le risque des moqueries. Il ne baisse pas les bras. Moi, je ne sais pas, à sa place, j'aurais peut-être dit, hop, je ne vais pas aller monter dans un arbre quand même, de quoi je vais avoir l'air. Le riche percepteur, avec sa belle toge, sa robe longue, il va se ridiculiser. Il va perdre toute dignité en grimpant dans un arbre. Vous imaginez la scène? Avec sa robe qui flotte, là. Imaginez un peu la scène. Complètement ridicule. S'il y a des gamins qui regardaient ça, qu'est-ce qu'ils devaient rigoler? Oh, t'as vu le percepteur? Alors, c'est vrai que les figuiers, enfin, je ne sais pas, chez moi en tout cas, je ne sais pas chez toi, Julie, mais ils ont des branches assez basses. C'est assez facile de grimper hein, dans un figuier. Mais quand même, il grimpe comme un gamin, Ça devait être rigolo à voir. Mais il sait que pour se rendre à Jérusalem, Jésus passera par là. Et dans son arbre, il pourra voir sans être vu. Ah ça, c'est intéressant, hein ? Est-ce qu'on n'est pas quelquefois un peu comme ça ? Voir sans être vu. C'est chouette de voir, d'observer, d'évaluer sans que personne nous voit. C'est ce qui fait le succès d'ailleurs des cultes sur Internet. Hein. Ça fait le succès parce qu'on est là sans être présent. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de service à rendre, il n'y a pas d'implication personnelle. On ne risque pas de se tromper, de faire une erreur. Et la communion fraternelle est parfaite. Il n'y a pas de souci. Tout le monde s'entend bien parce qu'ils sont sur l'écran et moi je suis là. Mais ça peut faire du bien de temps en temps. On aime tous écouter un message sur Internet, c'est une bonne chose. Mais attention, Jésus ne souhaite pas qu'on reste dans notre arbre. Jésus ne souhaite pas qu'on reste dans notre arbre. Même si l'arbre, il nous rend service, on n'est pas fait pour rester dedans. On n'est pas des oiseaux. Cet arbre dans lequel on se cache peut être aussi notre indécision. Oh, ben moi, je ne sais pas. Nos peurs, qu'est-ce que vont dire les gens ? Notre souffrance ? À qui faire confiance quand on a été trahi ? Évidemment. Notre indignité. Je ne suis pas assez bien. Je me souviens, quand j'étais adjointe au maire, le maire d'un village autour de chez nous, enfin une petite ville maintenant, il avait eu des menaces de mort. Je savais que ses parents étaient chrétiens. Et donc j'étais allée le voir. Je lui ai dit, ma tante, t'es allée à l'école du dimanche. Tu sais ce qu'il faut faire dans un cas comme ça ? Prie. C'est dangereux quand même ce dont on t'a menacé. Prie. Il m'a répondu, je ne suis pas assez bien pour prier. Bon, j'ai su lui répondre évidemment, mais parfois on pense ça, c'est notre arbre, on se cache. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez bien. Vous savez, ça c'est le concept des pharisiens. Il faut faire tellement de bonnes choses pour que Dieu nous accepte. Il nous accepte tel qu'on est. Tel qu'on est. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne va pas nous aider à faire des bonnes choses. Mais il nous accepte tel qu'on est quand on vient vers lui. Et c'est dommage que ce maire n'ait pas eu le courage de prier. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Est-ce qu'il l'a fait après ? Je ne sais pas. Il a déménagé maintenant. Jésus s'arrête au pied de l'arbre. Et là, je voudrais que vous travailliez un peu votre imagination. Jésus s'arrête au pied de l'arbre. Zachée est là, caché derrière ses branches et ses feuilles. Et j'imagine que Jésus, ce n'était pas quelqu'un de pressé. Hein. Je ne pense pas que l'histoire se déroule. J'arrive, Zachée, descends vite, je vais manger chez toi. Ce n'était pas l'époque non plus. Ce n'est pas Paris, ce n'est pas le 21e siècle. Ouais. Je pense que... Mais je ne résiste pas à la tentation de le mimer comme avec les enfants. Je pense que Jésus s'est arrêté en dessous de l'arbre, puis il a attendu un petit peu. Oh, ça devait être terrible ce temps d'attente. Ah non, pas ça ! Seulement, il y avait quelque chose de spécial, il le voyait, Zachée. C'est le regard de Jésus. Le pasteur du Point du Jour avait écrit un magnifique livre sur le regard de Jésus, ce regard extraordinaire. Et je crois que le regard de Jésus, il n'est pas comme le nôtre. Bah, le nôtre, il est plus ou moins gentil, plus ou moins bienveillant, plus ou moins prêt à juger. C'est pas le regard de Jésus. Toute la Bible nous montre que le regard de Jésus, tout le Nouveau Testament en tout cas, nous montre que le regard de Jésus est plein de bienveillance, de bonté. Et j'imagine Zachée là, derrière sur sa branche, il voit les yeux de Jésus levés vers lui et dans ses yeux, il doit lire quelque chose. Je suis sûre. Un regard tellement différent des religieux, qui sont si fiers d'eux. Un regard différent des pauvres en colère à qui il va prélever les impôts. Un regard différent aussi du regard méprisant des Romains, des occupants. C'est pas un regard auquel il est habitué. Et ça doit lui faire quelque chose. Et puis, Jésus dit « Zachée ». Et là, c'est pareil. Je ne pense pas que Jésus dit « Zachée, hâte-toi de descendre !» Zachée. Je pense qu'il a fait une pause. Alors ça, c'est mon interprétation. Mais à cette époque-là, on ne courait pas. Il l'appelle par son nom. Il devait se dire, « Oh, purée, il me regarde, il m'a vu, il savait que j'étais là, il me connaît, il sait donc tout de moi, il savait où j'étais, C'est plus la peine de se cacher. Alors, il savait que je voulais le voir. Je me souviens de quelqu'un qui était venu nous voir avec André, et puis on lui parlait de l'Évangile, elle était athée. Elle se déclarait athée. Et puis, quand on lui a demandé un petit peu la vie qu'elle avait vécue et qu'on a vu comment elle avait été protégée de choses bien pires, on n'a rien dit, mais c'est elle qui a dit, mais au fait, dans toute ma vie passée, en fait, Dieu m'a protégée. Je me tiens pour quelqu'un d'athée, c'est un peu spécial comme réaction. Oui, Dieu était là. Dieu, il est là pour tout le monde. Il ne veille pas que sur ses enfants, ceux qui lui ont confié leur vie. J'imagine que Jésus a fait une pause. Et puis, quand il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ah ! Eh bien, il n'y a pas de colère. Ah, il n'était pas habitué à ce qu'on lui parle sans colère. Hein, il n'y a pas de colère dans le ton de sa voix. Il n'y a pas de dureté. Il n'y a pas de reproche. Et je crois que cette voix, elle interpelle chacun de nous. Alors qu'on soit chrétien depuis 30 ans, 40 ans, ou depuis 5 jours, ou pas encore. Cette voix-là, elle est là. Elle nous appelle par notre nom. Il sait qui on est, il sait où on en est dans notre vie, il sait dans quel genre d'arbre on est en train de se cacher. Et il sait où on est, il sait ce qu'on pense, et il nous appelle par notre nom. On n'est pas le numéro 3850, machin. Non, il nous appelle par notre nom. Moi, j'admire Zachée, parce qu'à peine Jésus lui dit « à toi de descendre », il descend, et là il va vite. Là il va vite, même pour notre époque, il y va. Et on a l'impression dans cette façon de descendre que c'est fini la peur, c'est fini la honte, c'est fini le sentiment d'être indigne, la peur du ridicule, des moqueries, de la haine, de la colère de tous les gens à qui il prélevait les impôts, du mépris des Romains, etc. C'est fini, il descend et il y va. La Bible est claire, j'aime bien d'ailleurs le vocabulaire « Zachée, hâte-toi de descendre » et le verset suivant « Zachée se hâta de descendre ». Il obéit, il le fait. Et toutes les petites idées qu'il pouvait avoir, « Ah oui, mais que vont penser les autres ?»« Ah oui, mais... » C'est fini. Ce regard de Jésus, la façon dont Jésus lui a parlé, ça suffisait. C'est formidable. Et j'admire Zachée. Allez hop, il descend. Il ne pense plus à ce que vont penser les autres. Et puis, Jésus dit quelque chose de bizarre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut. Qui c'est qui a dit il faut? Pourquoi il faut? Il faut que je demeure dans ta maison. Ben oui. Parce que Jésus, et justement, c'est un peu le plan de Luc. Luc veut montrer que Jésus a une vie de prière très forte. Et la Bible dit que Jésus passait des heures en prière, tôt le matin ou parfois le soir, après avoir parlé à la foule, avoir guéri les malades, il était fatigué. Il était fatigué, comme nous, on est fatigué. Et il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et donc, il était crevé le soir. Et donc, il passait du temps dans la prière. Et Dieu pouvait lui dire, demain, tu verras un homme, il s'appelle Zachée, il sera caché dans un arbre. Va au pied de l'arbre, appelle-le. Et tu vas manger chez lui. Ça ne se fait pas de s'inviter comme ça. Même à l'époque, hein, franchement, c'était pas très... Il faut que je demeure dans ta maison. Il faut. Ben oui, parce que Dieu l'avait dit. Et Jésus avait cette capacité de faire ce que Dieu le Père voulait. Ah, si nous on était pareil. Combien d'ennuis on éviterait. Enfin, Dieu avait envoyé Jésus. Jésus avait entendu, il avait obéi. Il a fait ce qu'il voyait le Père faire dans ses temps de prière. Dieu lui parlait. Il lui donnait le programme en quelque sorte. Bon, c'est une façon un peu familière de le dire, mais c'est ça. Hâte-toi, et je crois que c'est aussi ce que Jésus nous dit, il y a des moments où il ne faut pas attendre. N'attends pas, ne tergiverse pas. Tu veux me voir? Alors je viens demeurer chez toi. Tu veux me voir? Alors moi je viens. Ça c'est extraordinaire. Avec Dieu, avec Jésus, c'est aujourd'hui le jour du salut. Il y a d'autres textes dans la Bible qui disent aujourd'hui c'est le jour du salut. C'est pas demain, demain ne nous appartient pas. On ne sait pas comment ce sera demain. C'est pas la peine de reporter à demain. Aujourd'hui je veux demeurer dans ta maison. Aujourd'hui. Et moi, j'admire Zachée parce qu'il obéit. Lui, le chef des publicains, quand même, c'était un personnage, un riche, etc., habitué à commander. Vous imaginez à la maison le nombre de domestiques qu'il devait avoir. À cette époque-là, déjà, il y en avait beaucoup. Il va descendre de son arbre pour recevoir Jésus dans sa vie. il va risquer la moquerie, etc. Il a compris que c'est un honneur de recevoir Jésus, d'être connu de Dieu, d'être découvert dans sa cachette, d'être choisi de façon si évidente, malgré les murmures des approbateurs. Et alors là, il y en a eu des murmures des approbateurs. Imaginez la foule, faites travailler votre imagination. La foule, vous savez, quand on lit la Bible, il faut essayer de s'imaginer la scène, sinon c'est pas marrant. Il faut se plonger un peu dedans. Parce que les murmures, ils allaient bon train. Hein. T'as vu ? Il est allé loger chez Zachée. Oh ! Le percepteur. Et puis tu te rappelles, il a fait ça, il a dit ça. Puis là, non, mais c'est pas possible que Jésus aille chez un homme comme ça. Moi, si c'était vraiment un vrai rabbi, si c'était vraiment un homme de Dieu, il ferait pas ça. Il saurait qui est cet homme. Oui, il savait, oui, il savait. Et puis, il va manger et loger chez Zachée. D'après ce qu'on comprend, hein, il va loger chez lui. Oh ! Ah ben non, ça se fait pas. Il est impur. Manger avec lui, c'est se rendre impur soi-même. Et vous savez, l'importance du repas à cette époque, c'était un signe d'alliance. On ne mangeait pas avec n'importe qui. On mangeait avec des gens avec qui on était en bon terme. Où il y avait une alliance. Alliance d'amitié ou alliance de famille, mais il y avait une alliance. Oser aller comme ça et manger avec un impur. Parce qu'il pensait que si je mangeais avec quelqu'un d'impur, je vais devenir moi aussi impur. Donc s'il savait ça, Jésus, franchement, il ne le ferait pas. Hein ? Importance du repas, la Sainte Cène, ce repas qui est justement un symbole de communion avec Dieu. Hein ? Bon. Manger et dormir chez un homme impur, eh ben, on est contaminé. C'est comme le Covid. Vous allez manger chez quelqu'un qui a le Covid, il ne met pas de masque, vous avez toutes les chances de le choper. Si c'était un vrai rabbi, il ne ferait pas ça. Mais alors, vous savez ce que j'aime avec Jésus ? C'est que lui, il s'abaisse. Il se met à notre niveau. Vous savez, il y a des gens qui parlent aux petits-enfants de toute leur hauteur. Et il y a des gens, pour parler à des petits-enfants, ils se mettent à leur hauteur. Et c'est quand même nettement plus agréable. On n'y pense pas toujours parce que tout le monde n'est pas habitué d'être avec des petits-enfants. Mais Jésus, c'est ça. Il s'abaisse, il se met à notre niveau. Il se déconsidère, il perd sa réputation ce jour-là à Jéricho. Pour les hommes religieux, c'est terminé. Mais lui, il n'est pas contaminé. Il n'est pas contaminé par nos fautes. Il n'est pas contaminé par nos péchés. Mais c'est l'inverse qui se passe. Alors vous savez, si vous mettez un fruit pourri dans une coupe de fruits, les pêches par exemple, les pêches c'est fragile, ou les cerises, les fraises, c'est terrible aussi. Bon, c'est le fruit pourri qui va contaminer tout le reste. Hein. Vous revenez 2 jours après, c'est très poilu, c'est blanc, c'est gris. C'est... Voilà. Mais avec Jésus, c'est l'inverse qui se passe. Vous mettez Jésus au milieu d'une coupe de fruits contaminés et c'est les fruits qui vont guérir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est nous qui sommes purifiés par sa présence. C'est miraculeux, c'est pas naturel. Zachée, visiblement, il va passer du temps avec Jésus. Il y a le repas. Probablement que Jésus a demeuré chez lui le soir. Enfin bon, c'est pas sûr, mais c'est probable. Et son cœur qui cherchait à voir Jésus peut alors le connaître. Et là, c'est pareil. Vous imaginez, il mange et pouf, je donne mes biens. Non, ça a pris du temps. Vous savez, les repas, hein, on dit que les Français, ils sont longs hein, pendant les repas. Mais alors, en Orient, à cette époque-là, il n'y avait pas de micro-ondes. Il fallait du temps pour cuisiner. On avait le temps de discuter. Et on prenait le temps. Et donc, pendant tout ce temps-là, il a pu voir qui était Jésus. Ses paroles, son regard, son non-jugement. Hein ? Luc ne détaille pas. Mais on peut deviner ça à cause des conséquences. Et on va relire le verset 8, 9 et 10. Zachée se tenant devant le Seigneur, et là, paraît-il, alors je n'ai pas fait de grec, mais j'ai lu que le mot se tenant, c'est vraiment se tenir dignement. D'un seul coup, il s'est senti digne. Il s'est senti purifié par Jésus, je ne sais pas. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Zachée décide de construire maintenant sa vie sur le roc. C'est-à-dire, vous savez, construire sa vie sur le roc, ça veut dire mettre en pratique les enseignements de Jésus. Et il va mettre en pratique la grâce de Jésus qu'il a reçue. Lui aussi, maintenant, il va faire grâce aux autres. au-delà de ce que la loi préconise. Parce que la grâce, ce n'est pas un truc qu'on manipule, comme disait un théologien qui est passé en notre église. La grâce, c'est quelque chose qui va bien au-delà de la loi. La loi te dit, fais ça, ne fais pas ça. La grâce va bien au-delà. Un cinquième, aux pauvres, c'était ce que les pharisiens demandaient pour manifester une grande piété. 4 ou 5 fois, c'était seulement pour un mouton ou un bœuf tué ou vendu. Lui, il va faire plus. Il va le faire pour des impôts perçus. Et puis, il ne donne pas un cinquième, mais la moitié. Bien au-delà de la loi, bien au-delà de ce que préconisent les pharisiens. Parce que le salut, c'est le pardon des fautes. C'est le don d'une nouvelle vie, avec la grâce pour donner et réparer. Ce n'est pas seulement une nouvelle vie, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est différent, mais c'est la grâce de donner et de réparer les erreurs qu'on a faites. Il avait été, d'une certaine manière, exclu du peuple par les pharisiens, mais Jésus, lui, le réintègre. Pourquoi ? Parce qu'il dit, mais cet homme était un fils d'Abraham, il fait partie du peuple. Il est retrouvé par Jésus. Alors, si vous n'avez pas encore pris de décision de laisser entrer Jésus dans votre vie pour toutes sortes de raisons, pensez à Zachée. Pensez au regard de Jésus. Lui, il vous cherche et il dit « Aujourd'hui, c'est le jour du salut. » Et j'aime beaucoup ce verset qui s'adresse à des chrétiens. Mais voilà, il est là. Voici, je frappe à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, c'est pas difficile d'ouvrir la porte. Moi, j'entrerai et je souperai. Jésus s'abaissera jusqu'à nous. Donc si vous avez encore des doutes, des décisions à prendre pour Jésus, faites-le aujourd'hui, n'attendez pas. Faites comme Zachée. Parce que la vie de Zachée après, je pense qu'elle a été nettement plus intéressante que sa vie d'homme riche, trompeur, un peu malhonnête, etc. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Seigneur, je te prie vraiment pour que chacun de nous ici, même peut-être chrétien de longue date, on a peut-être aussi des besoins de descendre de notre arbre. Quel que soit l'arbre, la peur, la trahison, le souci, l'indignité, peu importe qu'on soit chrétien de longue date ou pas, on a régulièrement besoin de descendre de notre arbre et tu es là en bas et tu nous regardes avec bonté. Et c'est cette grâce qui nous fait du bien, c'est cette grâce qui nous purifie, c'est cette grâce qui nous amène le pardon et la capacité de pardonner et de restaurer. Seigneur, merci pour cette histoire merveilleuse avec Zachée, parce que c'est aussi notre histoire à chacun d'entre nous. Amen.